Vous êtes sur RTL.
RTL Midi.
Le 12-30, Christelle Rebière.
Bonjour à tous, bienvenue dans RTL Midi. Et en ce mercredi 14 avril, jugez, vous êtes filmé. Le projet de loi de réforme de la justice prévoit de faire entrer les caméras dans les prétoires. L'idée, c'est de réconcilier les Français avec une institution dont ils se méfient. Certains dénoncent une justice spectacle. Toujours pas de traces de la petite Mia. L'enfant de 8 ans avait été enlevé hier dans les Vosges chez sa grand-mère. L'alerte enlèvement a été levée, mais l'enquête se poursuit activement. Du vaccin russe pour la région PACA, le président de région Renaud Muselier a commandé 500 000 doses de Sputnik V. Pour l'instant, le sérum n'a pas été validé par l'Agence européenne du médicament. Dans RTL Midi aussi, donner au train des idées d'avance, le slogan s'applique au Paris-Grandville. Le TER roule désormais au colza. La SNCF développe aussi les trains hybrides ou encore les trains à hydrogène. Encore une nuit blanche pour les agriculteurs, sans sommeil à cause du gel. Ça dure depuis 10 jours, un phénomène exceptionnel d'après le ministre de l'Agriculture, Julien de Normandie.
Notre pays a été confronté ces derniers jours à un épisode climatique tout à fait exceptionnel, qui a engendré une catastrophe agronomique la plus importante de ce début du 21e siècle. Ce sont des centaines de milliers d'hectares qui sont touchés.
Bonjour Peggy Broche.
Bonjour Christelle.
Ça va durer encore?
Et oui, malheureusement encore des gelées, de nombreuses gelées demain, sauf sur le sud-est. Ça commencera à aller un peu mieux vendredi, mais il en restera quelques-unes. Et ce sera moins froid ce week-end. Même les maximales sont fraîches pour la saison, surtout au nord, comprises entre 9 et 14 degrés. Jusqu'à 18 au sud, côté ciel, c'est encore une belle journée globalement, avec beaucoup de soleil et un peu plus de nuages cet après-midi près des frontières du nord, avec une petite averse localisée possible. Et puis ça se charge entre la région PACA et la Corse et un risque d'averse et de neige dès 1400 mètres.
La question du jour sur RTL.fr. Souhaitez-vous voir des procès à la télévision? Eh bien, il y a 58% de non, 36% de oui. On attend vos arguments 32-10. Bonjour Pascal Pro.
Bonjour, et effectivement, on évoquera tout à l'heure cette réforme de la justice. Autre sujet, justice également, les parents d'une jeune fille de 17 ans, Anne-Lise, violée au mois d'octobre par un homme libéré depuis quelques mois en raison, selon eux, de l'épidémie de Covid-19, attaque l'État pour faute lourde. On pourra également évoquer la suspension des vols entre le Brésil et la France. Et puis cette histoire étonnante, hier la marque Evian publie un tweet qui évoque le fait de boire au moins un litre d'eau par jour, un message apparemment anodin. Sinon, ce message a déclenché un véritable bad buzz puisque a commencé le ramadan, des internautes se sont sentis offensés et Evian s'est excusé quelques heures plus tard. Faut-il deux porte-drapeaux par pays pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, un homme et une femme, et puis Paris? Paris est magique, Paris qualifié, comme nous l'avions dit hier, souvenez-vous.
Bon, on va y venir, oui, on va bien sûr.
À tout à l'heure.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
La petite Mia, 8 ans, est toujours introuvable 24 heures après son enlèvement. Trois hommes s'étaient présentés chez sa grand-mère qui en avait la garde. L'alerte enlèvement a été levée au bout de quelques heures. Le procureur de la République d'Épinal vient tout juste de tenir une conférence de presse, Samuel Goldschmidt.
Oui, et il appelle toujours la population à être attentive aux signalements et à donner des renseignements. C'est la diffusion formelle de l'appel solennel sur les antennes qui stoppe au bout de 3 heures. Mais Mia est toujours introuvable et toujours activement recherchée. Si elle avait été placée chez sa grand-mère en début d'année, c'est en raison du comportement problématique de sa mère, selon le procureur Nicolas Heitz.
Fin décembre 2020, le parquet d'Épinal était destinataire d'un signalement indiquant notamment que l'enfant était confronté à la violence de sa mère. Elle était aussi confrontée à ses propos suicidaires et à son refus de sa scolarisation. Madame Montemaggi se disait malade, ne pas souhaiter que l'on s'immisce dans sa vie. Elle a par ailleurs indiqué fin décembre 2020 qu'elle allait vider son appartement et vendre ses meubles avec pour projet de partir en camping-car avec sa fille dans le but de passer, je la cite, « en dessous des radars de la société ».
Mia était donc placée chez sa grand-mère et a noté que l'enlèvement a été soigneusement préparé. Les deux kidnappeurs ont agi sans violence. Ils se sont présentés avec des documents à en-tête du ministère de la Justice. Ils ont mis en confiance la grand-mère avant d'emmener Mia. C'est parce qu'elle a eu un mauvais pressentiment que la grand-mère a appelé tout de suite ensuite les services de protection de l'enfance pour vérifier qu'il y avait un rendez-vous prévu. Et bien là, on lui a révélé qu'aucune visite n'était prévue. Et c'est là que le procureur a été directement alerté pour lancer aussitôt l'enquête.
Samuel Goldschmidt en direct d'Épinal pour RTL. Comment réconcilier les citoyens avec la justice? Le garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti a présenté ce matin au Conseil des ministres son projet de loi visant à restaurer la confiance. Il y a des changements majeurs, comme par exemple la généralisation des cours criminelles départementales. C'est un système que l'avocat Éric Dupond-Moretti, surnommé acquittateur, fustigeait il y a encore quelques mois, car il prévoit la suppression des jurés populaires pour certains crimes, Thomas Proutot.
Absolument, ceux pour lesquels l'auteur encourt 15 ou 20 ans de réclusion criminelle. Ils seront désormais jugés par 5 magistrats professionnels. Alors les peines encourues restent les mêmes et l'audience sera toujours une audience criminelle avec témoignages, expertises et enquêtes de personnalité. Mais ce sera moins poussé qu'aux assises, moins long. Autre gain de temps, plus de jury populaire, ça veut dire plus de convocations et plus de tirages au sort notamment. Pour ses promoteurs, la cour criminelle se justifie pleinement pour toute une série de crimes, notamment les petits vols avec armes ou les tentatives de braquage avortées. Et pour ce qui est des viols, ce sont souvent les victimes qui préfèrent des audiences plus rapides et hors du regard des jurés. Mais le principe du jury et de la souveraineté populaire est profondément ancré dans la justice française, d'où le mouvement de colère des avocats. La chancellerie affirme que l'expérimentation des cours criminelles menées depuis 2019 est une réussite et souligne que les meurtres et les assassinats notamment resteront jugés en cour d'assises, qu'il est hors de question d'y revenir. Visiblement, les ténors du barreau restent à convaincre.
Autre changement majeur, des caméras dans les prétoires. Depuis la loi Badinter de 1985, quelques rares procès pouvaient être filmés s'ils présentaient un intérêt pour la constitution d'archives historiques. Ce fut le cas, par exemple, du procès Barbie. Là, toutes les audiences pourront être enregistrées. Elles passeront ensuite à la télévision dans une émission dédiée, sans doute sur une chaîne du service public. Nous sommes en ligne avec Maître Marie Dauzet, avocate pénaliste au barreau de Paris. Bonjour.
Bonjour.
Pour vous, Maître, c'est de la transparence ou du voyeurisme ?
Pour moi, c'est du voyeurisme. D'ailleurs, pour rebondir sur le sujet juste avant, je constate quand même qu'il n'y a plus de jurés populaires, ou en tout cas beaucoup moins, mais qu'on juge utile de faire entrer chez soi des audiences à la télévision. Je ne comprends pas la vertu pédagogique qui nous est assénée sur ce projet. J'ai entendu le garde des Sceaux, pour tenter de réconcilier les citoyens avec la justice, indiquer... Je dis aux magistrats, communiquons, mais la justice n'est pas un outil de communication, et il le sait très bien.
Mais c'est quand même quelque chose... On a du mal à comprendre ce qui se passe, franchement, dans une salle d'audience. Avant d'y être soi-même allé, c'est sans doute intéressant de mieux comprendre.
Mais il faut aller dans les salles d'audience. Et d'ailleurs, les salles d'audience sont publiques, l'audience est publique. Ce que moi, je regrette, en fait, c'est cette idée de faire entrer chez soi une audience, sans en connaître les tenants et les aboutissants. Il faut au contraire que les collégiens, les lycéens soient accompagnés dans les salles d'audience par des professeurs, par des professionnels, qu'on explique la justice, parce que c'est vrai que la justice est mal connue, elle est méconnue et elle en souffre. Mais ça n'est pas en diffusant des audiences à la télévision qu'on fera œuvre de pédagogie. Véritablement pas. Au contraire, tout doit s'expliquer au cours d'un procès. Et là, en l'occurrence, il n'y aura pas d'explication. Et puis surtout, la sérénité des débats. C'est tout de même une véritable atteinte à la sérénité des débats que de filmer une audience. Il va y avoir un risque de starification des acteurs judiciaires, et notamment des avocats, dont c'est quelque chose. On va tomber dans la justice spectacle. Il y a aussi le risque de figer les victimes dans leur douleur, les accuser dans leur faute. Véritablement, cette réforme porte atteinte au droit à l'oubli et moi, en tout cas, m'inquiète énormément.
Après, c'est quand même strictement encadré. Il faudra l'accord des personnes. Leurs visages seront floutés. La diffusion n'aura lieu que lorsque tous les recours auront été épuisés.
Oui, alors j'ai pas très bien compris sur cette déclinaison. Effectivement, il va falloir aller jusqu'au bout de ce projet et voir exactement quelle va être sa mise en œuvre. Mais je pense que malgré toutes les précautions qui pourraient être prises, il va y avoir une incidence néfaste sur l'audience. Je pense très sincèrement qu'on va aller sur le terrain de l'autocensure. La liberté de parole à l'audience ne sera pas la même parce qu'il y aura des caméras. Je le sais déjà.
Autocensure de la part de qui ?
Mais de la part des avocats notamment, notre liberté de parole lorsque nous plaidons, certains propos que nous tenons en plaidoirie pourraient nous valoir par exemple des campagnes de dénigrement ou des menaces suite à leur diffusion. C'est important la liberté de parole et je peux vous assurer que nous ne sommes pas toujours aussi libres dans ce que nous disons et dans ce que nous plaidons lorsqu'il y a des journalistes dans la salle ou lorsqu'il n'y en a pas. Et ça doit être aussi pris en considération. Souvenons-nous d'où vient cette interdiction ? Cette interdiction, elle vient de 1954, après le fiasco du procès outrancièrement médiatisé de Gaston Dominici. Mmh. C'était justement pour préserver la sérénité des débats.
Une question oui, mais là, il ne s'agit pas d'une diffusion en direct. Hein. On est dans quelque chose de très encadré, de complètement décalé.
Mais c'est pas parce que ce n'est pas parce que l'audience n'est pas diffusée en direct que on peut oublier cette diffusion, qu'on peut oublier la caméra qui est en train de filmer. Mmh. Évidemment que ça a une incidence primordiale sur l'audience qui va se tenir.
Ça a une incidence sur les débats. C'est pour ça que vous êtes contre. On l'a bien entendu. Merci, Maître Marie Dosé, d'avoir répondu à nos questions. Alors, merci beaucoup. Souhaitez-vous voir des procès à la télévision ? C'est donc la question du jour sur RTL.fr et sur laquelle vous allez aussi revenir avec les auditeurs, Pascal Proulx.
Oui, mais si vous me permettez, la question, elle est tendancieuse telle que vous la posez. On a l'impression qu'on va voir des cours d'appel ou des cours de première instance en direct se dérouler devant nos yeux.
Non, c'est pas ça du tout. Mais on verra quand même des audiences à la télévision.
Mais on verra cela une fois, et vous l'avez rappelé, la diffusion ne sera possible qu'une fois que la décision rendue sur le fond sera définitive. Donc, on a l'impression, en écoutant la presse depuis ce matin, qu'on va ouvrir nos télés et qu'on aura des procès en direct.
Non.
Mais c'est pas ça du tout.
Non.
C'est pas ça du tout. En fait, honnêtement, ça change pas grand-chose d'une certaine manière. Et je trouve que c'est plutôt intéressant pour les historiens ou même pour les journalistes. Par exemple, le procès Omar Radad. Moi, j'aimerais bien le voir aujourd'hui, à 10 ans, 15 ans, 20 ans d'écart. Ça m'intéresserait. Mais évidemment, il n'est pas question d'avoir en direct un spectacle judiciaire. Et je ne comprenais pas non plus les arguments de Madame l'avocat il y a une seconde, parce que la liberté de l'avocat de parole, la presse est là et rapporte ce qu'a dit l'avocat. Donc c'est dans les journaux le lendemain. Ou alors faudrait aussi sortir la presse des débats judiciaires. Ça n'a pas de sens.
Voilà, le débat est posé, vous avez les éléments, vous pouvez nous appeler au 3210, vous aurez la parole dans une vingtaine de minutes. On fait une petite pause et dans un instant, la région PACA achète du vaccin russe Sputnik V.
RTL Midi
avec Christelle Rebière.
Le vaccin Johnson & Johnson mis en pause par les autorités américaines pour de rares cas de caillots sanguins, principe de précaution. L'Agence européenne du médicament doit donner son avis aujourd'hui. Il devait être utilisé en France dès la semaine prochaine. Qu'est-ce que ça change, Virginie Garin ?
Eh bien, il devait permettre de vacciner 600 000 personnes en avril en France, près de 2 millions avant la fin du mois de mai, compte tenu du risque minime lié au vaccin. Il a été suspendu pour un cas de thrombose par million de personnes vaccinées. On peut penser qu'il sera rapidement réautorisé, mais ça va retarder son arrivée. Alors, il doit servir ce vaccin à compléter l'AstraZeneca en ville, chez les médecins, les pharmaciens. Il doit être envoyé aussi dans les territoires d'outre-mer. Reste à savoir si ce vaccin sera maintenu uniquement pour les plus de 55 ans, car les caillots sanguins apparaîtraient plutôt chez les personnes jeunes.
Alors, autre nouveauté, à partir d'aujourd'hui, la deuxième dose de vaccin Pfizer sera administrée non plus 24 jours après la première, mais 42 jours.
Oui, car plus on avance dans le calendrier vaccinal, plus les personnes éligibles sont jeunes et donc, en théorie, ont un système immunitaire plus résistant. C'est pourquoi le gouvernement a souhaité allonger cette période entre deux doses pour tous les rendez-vous pris à partir d'aujourd'hui. Alors, ça fera plus de doses pour des premières injections. Mais attention, si vous faites partie des gens fragiles, à risque, il y a encore, par exemple, des plus de 75 ans qui ne sont pas vaccinés, votre médecin pourra demander de maintenir quand même le délai de 24 jours entre les deux doses.
Le président de la région PACA, Renaud Muselier, s'impatiente face aux lenteurs de la vaccination. Il a annoncé ce matin sur RTL avoir passé commande de 500 000 doses de vaccin Sputnik V.
Pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, je me suis retourné vers les Russes. J'ai vu l'ambassadeur de Russie et j'ai fait une précommande de 500 000 doses de Sputnik dans l'attente de l'autorisation des autorités sanitaires européennes. J'ai prévenu M. Le Drian. Bien entendu, ça pose un problème potentiel. Mais enfin, si on avait les vaccins français, on est le seul membre du Conseil de sécurité à ne pas avoir de vaccin quand même, hein.
Renaud Muselier, qui était l'invité d'Alba Ventura. Virginie Garin, je me tourne de nouveau vers vous. A-t-il le droit, puisque toutes les commandes doivent être en principe centralisées par l'Union européenne ?
Alors, il a le droit de les commander. Hein. Rien n'interdit dans la loi française à une collectivité, une région, une commune d'acheter des vaccins, d'autant que le Sputnik V ne fait pas partie de la liste des contrats de commercialisation signés par l'Europe. Ça aurait été un peu plus compliqué avec le Pfizer ou le Moderna. Donc, oui, il peut les acheter. En revanche, il n'a pas le droit de vacciner avec. Il faut attendre le feu vert de l'Agence européenne du médicament. Le dossier est en cours d'examen, mais s'il y a feu vert, ce ne sera pas avant cet été.
Merci Virginie. Face à la menace du variant brésilien, les vols entre le Brésil et la France sont donc suspendus jusqu'à dimanche soir. Les deux derniers vols venus de Rio et Sao Paulo sont arrivés ce matin à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, Arnaud Touche.
Dans le hall des arrivées, ils sont quelques dizaines, valises à la main et les yeux fatigués, à débarquer au petit matin.
Il y avait à peu près 80 passagers dans l'avion.
Pénélope est de retour de Rio de Janeiro et elle n'était pas forcément très inquiète.
On l'a su dans l'avion, que c'était le dernier vol.
À l'arrivée, comme tous les passagers, elle a dû réaliser un test antigénique et comme l'explique Séverine, les autorités leur ont rappelé leur devoir.
Ils nous conseillent effectivement les 7 jours. Moi, pour mes proches, effectivement, je resterai 7 jours en isolement et test PCR au bout de 7 jours.
Mais tous ne l'entendent pas de cette oreille, à l'image d'Aurélien, lui aussi de retour du Brésil ce matin, et il ne compte pas respecter cet isolement.
C'est impossible à gérer, à part si on va dans un hôtel 7 jours, c'est impossible à gérer. Du coup, je rentre à Boulogne et après, je vais ressortir, honnêtement, je ne vais pas vous le mentir. J'étais en Afrique du Sud, comme je vous l'ai dit aussi avant, j'avais fait un peu le même process et c'était aussi un variant contraignant, mais là-bas, on vivait très bien avec le virus.
Une attitude que ne partagent pas les autres passagers qui ont prévu de se confiner pour les 7 prochains jours.
Reportage Arnaud Touche. Quand la SNCF se met au vert, les trains du futur fonctionneront à l'hydrogène, à l'énergie électrique et aussi au biocarburant. Une expérimentation prometteuse est menée en ce moment sur la ligne Paris-Granville, Frédéric Veille.
Oui, le train Paris-Granville est entré tout à l'heure en gare comme un train ordinaire, hein, sauf que celui-ci a fait le trajet avec un plein de biocarburant appelé le Bessan. Olivier Chou est le directeur de la ligne Paris-Granville à la SNCF.
Alors, le Bessan, c'est un biocarburant issu de la filière colza. Colza français. Il faut savoir qu'avec un hectare de colza, on fabrique 500 litres d'huile de colza et dans du Bessan, il y en a ici. On a alimenté nos cuves en Bessan pour alimenter l'ensemble des 15 rames de la ligne Paris-Granville en Bessan. Voilà, elle fonctionne uniquement en Bessan pendant l'expérimentation qui va durer 3 mois.
Si ces essais sont concluants, ces trains roulant au biocarburant pourraient se généraliser sur le territoire normand. C'est en tout cas ce qu'a confié Hervé Morin, le président de la région, qui assure aussi que cette filière va aussi bénéficier au monde agricole.
C'est un débouché supplémentaire. En plus de ça, comme vous le savez, on a une usine en Normandie qui est leader sur ce sujet-là, qui est dans l'agglomération rouennaise. Et donc, en clair, on a la filière.
Reste maintenant à attendre 3 mois pour évaluer l'impact de ce carburant alternatif sur le matériel et son utilisation.
Frédéric Veille et le Bessan. Alors pour aller plus loin, nous sommes avec le directeur TER délégué chez SNCF Voyageurs. Bonjour Jean-Aimé Mougenot.
Bonjour.
Le Paris-Granville, c'est une expérimentation, mais vous envisagez de l'étendre à d'autres lignes ?
Le train, je dirais, est vertueux par nature. Et notre mission, c'est de proposer aux autorités organisatrices, aux régions, et c'est le cas là pour la Normandie, des diverses solutions qui correspondent à leur situation. L'expérimentation biocarburant est intéressante et c'est un travail en commun réalisé avec la Normandie et le Conseil régional de Normandie dont nous nous félicitons. Il y a d'autres solutions qui sont aujourd'hui travaillées dans différentes régions.
Alors ben justement, vous misez surtout, si j'ai bien compris, sur les trains à hydrogène. Il y a 12 rames Alstom qui ont été commandées par 4 régions, Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Grand Est et Occitanie. Mais c'est pour quand ces rames à hydrogène ?
Nous avons mis au point une démarche durable, de développement durable, notre programme planétaire, et nous avons les biocarburants, comme vous le dites, l'hydrogène, nous avons aussi des trains à batterie, nous avons aussi les trains hybrides. Là, en ce qui concerne maintenant les trains à hydrogène, pour nous poser cette question, c'est une solution qui est à plus moyen terme que le biocarburant. C'est pour ça que le biocarburant est intéressant. Là, les trains hydrogène, c'est à 2-3 ans pour les premières circulations d'essais, puisque là, il s'agit, dans ce cas, de remplacer une technologie diesel, un moteur diesel, bien connu dans les voitures, par un moteur à hydrogène avec une pile à combustible.
Oui, donc en fait, c'est beaucoup plus complexe, alors que rouler au colza, ça nécessite quelques modifications assez simples, finalement, du moteur.
Notre objectif avec les régions, c'est d'aller le plus vite en matière de réduction des émissions carbone. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas une solution qui est privilégiée, mais des solutions à plus ou moins long terme. Le biocarburant permet d'aller vite et sera utilisé chaque fois, comme le disait le président Hervé Morin, qu'il y a en local des solutions pour produire, évidemment.
Aujourd'hui, aujourd'hui, il y a 900 trains régionaux qui roulent encore au diesel. Ça va quand même prendre du temps pour verdir le parc.
Bien entendu, 900 trains qui roulent au diesel, la moitié d'entre eux qui sont strictement en diesel. C'est bien pour ça que nous développons ces, toutes les idées. Quand il s'agit de remplacer par du biocarburant, par du biogaz, ça va prendre quelques années. Mais ce qui compte, c'est de préparer l'horizon 2025. Et quand, avec la technologie hydrogène et la technologie batterie, nous pourrons travailler de manière dans le remplacement de ces moteurs. Et là, c'est ce que nous sommes en train d'expérimenter avec le train hydrogène.
Merci beaucoup. La SNCF passe au bio. Hein. Merci beaucoup d'avoir été l'invité d'RTL Midi. Le retrait de l'Afghanistan se précise. Les forces de l'OTAN devraient quitter ce pays en septembre, d'après Berlin. L'Allemagne, les États-Unis, la France et le Royaume-Uni doivent évoquer ce sujet aujourd'hui, d'autant que Joe Biden retirera ses troupes sans condition d'ici au 11 septembre, date du 20e anniversaire des attentats de 2001. Dans un instant, le PSG qui peut enfin rêver plus grand.
RTL Midi
avec Christelle Rebière.
Le Bayern Munich digère l'une des victoires les plus amères de son histoire. Le tenant du titre vainqueur 1-0 au Parc des Princes a tout de même été éliminé par le PSG. Et les Parisiens, eux, se tournent vers l'avenir. Mais dans le dernier carré de la Ligue des Champions, Nicolas Georgerot, va y avoir du lourd.
Oui, c'est un parcours qui forge une épopée, c'est certain, parce qu'après Barcelone et le Bayern Munich, ce sera le Manchester City de Guardiola ou le Borussia Dortmund de la nouvelle star, de la pépite norvégienne Erling Haaland. Alors il n'y a plus que 3 matchs avant de voir peut-être les hommes de Pochettino brandir la Ligue des Champions dans le ciel d'Istanbul dans un mois et demi, mais même en cas d'accès à la finale, il y aura encore une marche élevée à franchir. Le Real Madrid, Liverpool ou Chelsea, désormais dirigé par son ancien entraîneur Thomas Tuchel. Favori, outsider, ça ne veut plus rien dire à ce stade selon l'ancien parisien Bernard Lama, champion d'Europe en 1996 notamment et invité de RTL ce matin.
Dans ce genre de confrontation-là, vous êtes les deux. On est avec sur des machines de précision. Plus elles arrivent près de l'arrivée et plus elles sont concentrées, plus elles sont performantes. C'est un équilibre très très fragile. Quand vous arrivez à ce niveau-là, il n'y a que du lourd.
Mais ce PSG a encore de la marge et c'est une motivation supplémentaire. Paris a sorti les champions d'Europe sans Verratti et quasiment sans Marquinhos, le patron de la défense qui n'a joué que 30 minutes au total et qui devrait revenir de blessure dans une dizaine de jours juste avant les demi-finales.
Merci Nicolas. On est à 100 jours pile des Jeux Olympiques de Tokyo et même si la flamme olympique traverse de manière un peu chaotique le Japon en proie à la pandémie, les athlètes se préparent et pour la première fois, la délégation française va porter le drapeau tricolore à 4 mains. Ça demande quelques contorsions au nom de l'égalité femmes-hommes, Isabelle Langer.
Alors je ne vous cache pas effectivement que nous nous interrogeons sur la manière dont les deux heureux élus vont faire pour porter ce drapeau en même temps. Quoi qu'il en soit, ce double mixte est une volonté du Comité international olympique que la France va donc mettre en place. Et pour Mélina Robert-Michon, médaillée d'argent au lancer du disque à Rio, c'est aujourd'hui presque logique, comme elle l'a confié à Jean-Michel Rascol.
Forcément, c'est dans l'air du temps et je dirais même pourquoi on ne l'a pas fait avant. Ça ne sera pas la reconnaissance éternelle, mais disons que ça va permettre justement de continuer à faire avancer les choses et de continuer à valoriser le sport féminin au même niveau que le sport masculin.
Mélina Robert-Michon fait partie des candidates pour porter le drapeau lors de la cérémonie d'ouverture. Alors chez les femmes, elle est en concurrence notamment avec la judokate Clarisse Agbenienou, elle aussi médaillée d'argent à Rio, et la championne olympique de planche à voile Charline Picon. Chez les hommes, le perchiste Renaud Lavillenie a été le premier à candidater, face à lui Florent Manodou, mais aussi le gymnaste Samir Aït Saïd. La liste officielle sera dévoilée cet après-midi. Ce sont les ambassadeurs, un champion et une championne des 32 fédérations olympiques qui choisiront par vote électronique et résultat au plus tard début juillet.
C'est démocratique. Merci Isabelle.
RTL, le coup de cœur de nos correspondants.
Et nous partons à Cormicy, dans la Marne, plus précisément à l'hôtel de ville. Le bâtiment avait été supplicié pendant la Seconde Guerre mondiale et la restauration de la façade s'applique à garder des traces de l'histoire, Dimitri Ramelot.
Port du casque obligatoire pour Dominique Descodin, maire de Cormicy, le long des 30 mètres de la façade de l'hôtel de ville.
Par exemple, là ici, vous avez les premiers impacts qui sont entre deux pierres. Sur un mètre carré, on a déjà 7 impacts.
Et le conseil municipal a été convaincu par une association locale de sauvegarde du patrimoine de conserver observer les stigmates de l'histoire.
La commande Arthur était logée dans le château de Cormicy. Et là, vous avez donc une inscription qui avait été faite par les Allemands pour répertorier toutes les rues et tous les édifices quand ils étaient ici pendant la Seconde Guerre mondiale.
Et cette inscription, comme 30 impacts de balles, font l'objet de toutes les attentions de Jean-Michel Faury, responsable de la société mandatée pour la rénovation.
On a fait le tour avec Monsieur le maire, l'architecte des bâtiments de France, de façon à faire le choix des pierres qu'on remplace, des éclats de balles qu'on conserve, de façon à pas y toucher. L'idée, c'est de respecter le bâtiment et de pas montrer qu'on est intervenu sur l'édifice. C'est beaucoup de chirurgie.
Et accroupis dans la poussière, les compagnons comme Raïm sont fiers d'être des témoins de l'histoire.
C'est intéressant. Les cailloux comme celui-là devant moi, ça, on peut changer, on coupe moitié par exemple, qu'est-ce qu'il est abîmé, on change, on met un nouveau.
Et les échafaudages et bâches devraient être enlevés fin avril et dévoiler la façade hybride de deux périodes distantes de 80 ans.
Magnifique reportage de Dimitri Ramelot et ce devoir de mémoire à Cormicy. Pascal,
oui,
au menu des auditeurs.
L'affaire Evian, je la trouve extraordinaire. Je rappelle qu'Evian publie un tweet qui évoque le fait de boire au moins un litre d'eau hier. Message anodin. Un message qui déclenche un véritable bad buzz parce que a commencé le Ramadan. Donc certains se sentent offensés et Evian présente ses excuses quelques heures plus tard. Une histoire d'aujourd'hui.
À tout de suite. La météo, Peggy Broche, encore une belle journée.
Eh oui Christelle, c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de soleil sur la majeure partie du pays aujourd'hui. Un peu plus de nuages, c'est vrai, sur le nord-est, avec une petite averse possible près des frontières du nord. Et le ciel se charge entre les Alpes du Sud et la Corse avec un risque d'averse et une limite plus neige à 1400 mètres. Et puis il y a toujours ce petit vent de nord-est qui rafraîchit l'atmosphère. Du coup, c'est vrai que les températures plafonnent sous les normales au nord. 9 degrés seulement à Langres, 10 à Metz, ainsi qu'à Lille, 12 à Paris, 14 à Grenoble, Rennes et Brest, 16 degrés à Ajaccio, 17 à Montpellier, Marseille et 18 à Agen et Auch.
Et demain, les températures seront toujours poussives.
Oui, encore de nombreuses gelées malheureusement demain. Alors seul le sud-est sera épargné et les maximales elles seront stationnaires, donc encore sous les normales au nord. Côté ciel, même type de temps avec beaucoup de soleil en matinée sur l'ensemble du pays. Le Nord-Pas-de-Calais, la région PACA, là il y aura plus de nuages avec un petit risque d'averse. Et dans l'après-midi, les nuages vont gagner le nord et la façade est, ainsi que la Corse avec des averses, de la neige sur les reliefs de l'est, quelques gouttes possibles également sur la Normandie et le temps restera très beau sur toute la partie ouest du pays.
Merci Peggy.
Il est 13h.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
La réforme de la justice et notamment cette idée qu'il va falloir d'ailleurs affiner de téléviser les procès. David est avec nous. Bonjour David.
Bonjour Pascal. Oh. Eh bien voilà, un nouveau programme télévisuel, excusez-moi, Tribunal Story.
Mais non, justement, et je vous, c'est ça qui est, c'est intéressant ce que vous dites parce que vous, c'est le débat qu'on avait avec Christelle, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça, parce que ce sera jamais en direct, par exemple. Mais c'est interprété parfois comme ça dans le public.
Bah vous allez faire un petit peu de pédagogie.
Bah oui, mais je vais être obligé de dire le contraire de David, il va m'en vouloir après.
Elle est toujours pas de trace de la petite Mia. L'enfant de 8 ans a été enlevé hier à la mi-journée par trois hommes enlevés de chez sa grand-mère qui en avait la garde dans les Vosges. L'alerte enlèvement a été levée, mais la justice a mis en place un numéro vert. Pour toute information, c'est le 0800 36 32 68. 0800 36 32 68. Un nouveau contretemps dans la stratégie de sortie de crise du gouvernement. Le vaccin de Johnson & Johnson qui arrivait cette semaine a été mis en pause par les autorités américaines. Renaud Muselier, le président de la région PACA, a commandé 500 000 doses du vaccin russe Sputnik V, un sérum qui n'a pas encore reçu le feu vert de l'Agence européenne du médicament.